RMA a souhaité rencontrer Vignes et Vignerons du Trièves. Nous vous proposons une rencontre en trois parties. Vignes et Vignerons du Trièves s'occupe à la fois de la sauvegarde du patrimoine vignoble du Trièves, mais aussi la sauvegarde du patrimoine fruitier. Et c'est également un local, l'Engrangeau. Donc, une rencontre en trois parties. Pour cette première partie, nous sommes avec Samuel Deluce, vigneron pour l'association. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Pour commencer cette première partie de Vignes et Vignerons du Trièves, les vignes, le cépage, comment êtes-vous arrivé dans l'association? D'où c'est parti?
Eh bien donc moi je fais partie des fondateurs de l'association, puisque en 2008 avec Gilles Barbe et d'autres personnes, on s'est dit alors que à l'époque je galérais déjà depuis des années pour trouver une solution pour restructurer le vignoble de Prébois, puisque je suis de Prébois, on cherchait des solutions à cette époque-ci pour voilà, pour trouver une façon d'avancer. Et à ce moment-là, on s'est dit bon, en 2008 on était déjà en relation avec des gens de Savoie qui avaient monté une autre association qui s'appelle le Centre Empélographique Alpin et qui met en place un conservatoire d'anciens cépages dans les Alpes et de cépages des Alpes. Là, on s'est dit, d'ailleurs au retour du premier conseil d'administration de cette association de Savoyard, on s'est dit bon, nous, qu'est-ce qu'on fait? On monte cette association, on va à plusieurs, on sera plus fort et on va essayer à partir de là de créer vraiment une structure qui tienne la route. Voilà.
Cette association savoyarde vous a inspiré? Vous vouliez reproduire le même modèle? Vous vouliez partir un peu dans ses traces?
Non, on ne s'est pas créé le même modèle, puisque nous, on a un but précis, c'était la restructuration du vignoble du Trièves et la sauvegarde de ce qui est déjà en place, alors que l'association savoyarde, le centre empélographique alpin, elle a pour but de répertorier les anciens cépages, de créer des conservatoires, de les mettre en conservatoire et de faire de la prospection, notamment dans le Trièves, puisqu'ils sont venus ici, ils sont venus dans le Valbonnais également, pour retrouver les anciennes souches Vitis vinifera qui étaient en place avant la maladie, avant le phylloxéra, et pourra pas les réimplanter aujourd'hui sur nos vignobles.
Et la sauvegarde des cépages triévois, c'est donc l'objet de l'association Vignes et Vignerons du Trièves. Ça ne correspond pas à la sauvegarde de cépages rares?
Bah si, c'est des cépages rares, mais on parle pas en fait de cépages triévois, on parle de cépages à la limite isérois ou alors alpins. Parce que le Trièves avait certains cépages comme l'onchette, la douce noire, le corbeau, enfin le douce noire qu'on appelait aussi le corbeau, pas mal d'autres cépages comme le persan, et tous ces cépages-là étaient situé dans l'Y grenoblois, en Savoie et dans le sud Isère chez nous, quoi. Voilà, donc nous on n'a pas vraiment pour but de rechercher le cépage du Trièves, parce qu'il n'existe pas forcément, hein. Après on retrouvera par exemple l'onchette dans le Champsaur ou dans le Valbonnais. Après nous, notre but c'est vraiment de travailler sur ces cépages là quoi.
Alors comment avez-vous démarré en 2008?
Alors en 2008, on était peut-être 8-10 personnes, on a créé l'association, on est parti de rien, on a eu un siège social, on a monté un siège social à Mince, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Engrangeau, et à partir de là, comment on va faire pour planter, parce que le but c'était replanter, c'est une montagne administrative, et ça fait donc depuis 2008 qu'on a fait des demandes à droite et à gauche dans l'administration pour pouvoir aboutir à des droits de plantation, voilà, à de nouveaux droits de plantation. Alors il a été assez simple d'obtenir des droits de plantation conservatoires ou expérimentales, où on a réintroduit sur Serbertra, sur Prébois, des cépages que rares, en tout cas autochtones de la région. Par contre aujourd'hui on se bat pour mettre un pied, pour aller un peu plus loin, pour planter des vignes plus conservatoires, mais des vignes commerciales, pour pouvoir diffuser le vin plus largement.
Donc un premier combat de gagné, un nouveau s'annonce.
Oui, c'est le combat des vignes conservatoires a été assez simple, parce que structure association, on a pu avoir ces droits conservatoires, parce que c'est le genre de structure qui peut obtenir ce genre de droits. Ou une pépinière. Enfin, nous, ça a été assez simple, mais depuis quelques années, du coup, on se bat pour ces droits commerciaux et notamment pour l'installation de jeunes vignerons tels que moi, puisque c'est aussi un gros projet. Du coup, pour qu'un jeune puisse obtenir des droits commerciaux, que l'association également puisse en obtenir, et pourquoi pas plusieurs jeunes, quoi. puisqu'on a, bien entendu, j'y crois dur comme fer, les coteaux Moulin Vieux, les coteaux sud du Trièvre sont tout à fait, ce sont des terres tout à fait adaptées à la vigne.
Vous avez des bonnes raisons d'espérer que ce droit de plantation pour du commerce arrive prochainement ?
On est en cours de régularisation avec pas mal de structures administratives. Bon, on a remué beaucoup de monde, à droite, à gauche. Il faut négocier avec France Agrimaire, il faut négocier avec les douanes, il faut négocier avec beaucoup de monde. Et aujourd'hui, on croise les doigts pour aller vers une régularisation. Et vraiment aboutir enfin à quelque chose de concret, c'est-à-dire une ouverture sur la commercialisation.
Qu'est-ce qui fait cette difficulté d'obtention d'un droit de plantation pour le commerce ? Comment font, par exemple, les vignobles classiques qui vendent du vin ? Quelle est la différence entre l'obtention de votre droit difficile chez vous et puis un vignoble classique ?
Alors, c'est très simple, en fait. Le Trièvre n'était plus considéré comme une zone viticole. Donc, ces zones-là ne pouvaient pas imaginer obtenir des droits de plantation. Autre que conservatoire par l'intermédiaire de l'association, mais des droits commerciaux n'étaient pas possibles. Au départ, il aurait fallu que l'IGP Isère intègre le Trièvre dans la zone géographique IGP Isère. Bon, ça n'a pas été fait tout de suite. Aujourd'hui, on a de très bons rapports avec l'IGP. Au début, il y a eu ça. Puis ensuite, voilà, le fait que la zone Trièvre n'était pas reconnue. France Agrimaire nous a proposé une solution. C'était l'installation d'un jeune en DJA. Et à partir de là, il y aurait eu une possibilité d'obtenir des droits. C'est-à-dire l'installation d'un jeune agriculteur dans un cadre bien précis, hein, donc dans un cadre aidé. Est suivi par la Chambre d'agriculture. Seulement, ça demandait vraiment des conditions très particulières auxquelles je ne pouvais pas répondre et je ne voulais pas répondre parce qu'en fait, il y a des conditions de revenus auxquelles les plantations pérennes telles que la vigne ne peuvent pas répondre puisqu'une vigne va commencer à produire au bout de 3 à 4 ans alors que la réglementation me demandait des revenus dès le départ. Donc à partir de là, on m'a dit, bah faites autre chose, parallèlement, faites du foin, mais il faut savoir que pour faire du foin, bah, quand on passe par ces installations aidées, on nous impose aussi des surfaces minimum d'exploitation, et que là, il fallait que je trouve 8 hectares de terre en plus quoi pour pouvoir faire du foin, ou peut-être 2 hectares pour faire des pommes de terre. Et à partir de là, vu le travail que j'ai à côté, puisque j'ai le travail à l'association, et mon travail qui allait représenter ma propre installation, ça allait être très difficile, quoi.
Ça vous décentrait de votre projet, en fait.
Complètement, oui. Puis en plus, si on approche tous les paramètres, il faut, pour aller faire du foin ou pour aller faire des pommes de terre, il faut être équipé. Bon, il faut la surface d'exploitation, il faut être équipé. Mais au moins, on m'a imposé d'avoir un revenu qui est pas grand-chose, mais le revenu que j'avais à l'association ne pouvait pas rentrer en compte dans ce revenu. Donc, les choses étaient bloquées. Aujourd'hui, personnellement, depuis très peu, j'ai des bonnes nouvelles. Enfin, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais j'en parlerai pas plus du coup, mais bon, ça il y a eu quand même des grosses avancées depuis un mois là.
On se rend bien compte donc de ces difficultés pour progresser dans votre projet de plantation de vignes. Pour l'instant, il y a cette possibilité, ce que vous avez mis en œuvre depuis 2008, qui est de la plantation conservatoire. Alors peut-être on va s'arrêter maintenant sur ce que vous avez réalisé, fait en dehors de la bataille administrative et des droits sur le terrain, sur la terre. En quoi consistent vos journées depuis 2008 dans votre travail de conservatoire, de vignoble ?
Alors il faut savoir qu'en 2009 ou 2010, non 2009, puisqu'on avait fait la demande en 2009, nous avons obtenu 7 500 m², je crois bien, pour être précis, de droits de plantation conservatoire. Donc à partir de là, on s'est dit, bon, où est-ce qu'on va les mettre ? Il faut savoir que beaucoup des zones où on désirait mettre les vignes étaient en friche, hein, il y avait des gros buissons, donc il y a eu un gros travail fait notamment par une entreprise de la Matésine de défrichage, c'était quasiment à certains endroits de la forêt, donc ils ont réussi à tout défricher, et ensuite bah, des agriculteurs de Prébois nous ont permis de préparer les sols, et nous avons attaqué à planter dès il y a 2 ans une première parcelle à Prébois, et puis s'est enchaîné donc 2011 les plantations de Serre Bertrat où nous avons fait un réel conservatoire. Il y a à peu près 200 plants de persan, 200 plants de durif, 200 plants de joubertin, 200 plants de honchette. On a attaqué ces plantations. Donc aujourd'hui, on nous reste peut-être 2 000 m² de droits pour continuer cette année en conservatoire avant qu'on puisse espérer passer à de la plantation commerciale.
Vous vous occupez de A à Z de ces vignes qui sont en plantation conservatoire ?
Oui, tout à fait. La première plantation à Prébois, on a tout planté à la main. C'est une partie de plaisir parce que c'est au mois d'avril, le printemps arrive, et puis quand on plante une vigne, et qu'on sait qu'elle sera là pour 50 ans, 100 ans peut-être, c'est juste quelque chose de, je dirais pas transcendant, mais de très excitant. Voilà.
Quand vigne et vigneron plante, ça veut dire que vous êtes là pour un peu manager et donner les indications, et que c'est un travail d'équipe avec des adhérents. Vous avez une petite équipe qui est mobilisée au moment de la plantation. Comment ça se passe?
Donc nous sommes trois employés à l'association, donc Eric qui lui est plutôt à la boutique, et puis sur le terrain, moi et Jérémy. Et à partir de là, moi je me spécialise sur la vigne, mais quand il y a un chantier vigne, Jérémy vient m'aider. Et quand Jérémy, lui qui travaille plutôt sur les fruitiers, quand il y a un chantier de plantation fruitier, c'est plutôt moi qui vais l'aider. Voilà, donc on travaille de cette façon-là. Donc on est la plupart du temps à deux, mais c'est vrai qu'on a parfois, quand un adhérent a le temps, et beaucoup d'adhérents nous laissent leur numéro de téléphone pour qu'on puisse les solliciter lors des chantiers. Bon, ils sont pas forcément disponibles, on se retrouve jamais à 50, hein, mais on peut être parfois 4, 5, voilà.
Reportage de RMA à la rencontre de l'association Vignes et Vignerons du Trièves. Ce reportage est en trois volets. Premier volet, les vignes avec Samuel Deluce. Nous venons de parler des plantations, abordons maintenant la vinification. Ce qu'on entend, la petite résonance, c'est celle du local de vinification. On voit différentes cuves de différentes tailles.
C'est des cuves inox. Et entre autres, puisqu'on a des cuves en fibre également, mais la plupart sont des cuves inox.
Comment un pressoir ?
Un pressoir, effectivement, oui. Puis bon, il y a du matériel qui n'est pas là, qui nous sert uniquement pour la vendange, telle qu'une érafleuse, une pompe pour transporter la vendange, etc. Mais oui, enfin, globalement, on a un petit laboratoire au fond pour faire. On est loin, nous, des laboratoires de Savoie, donc on essaie de faire la plupart des analyses ici.
Ces cuves ne servent pas uniquement pour les cépages que vous avez plantés en conservatoire vous-même?
Non, parce qu'il faut savoir que pour l'instant, les vignes qu'on a plantées en conservatoire n'ont pas encore donné, hein, n'ont pas encore produit de fruits. Donc ici, en fait, c'est la mise en commun du matériel de l'association. Voilà, c'est une autre part de notre travail et du but de l'association, c'est de sauvegarder l'existant. Donc l'existant, c'est une dizaine de vignes peut-être ici dans le local dont les propriétaires ont laissé des jeunes exploiter la vigne. Nous recevons en fait au moment des vendanges, nous mettons à disposition, parce que les jeunes qui reprennent ces vignes n'ont pas forcément toute la connaissance pour la vinification. Un des buts de l'association, c'est aussi d'apporter notre connaissance, notre savoir-faire, de mettre à disposition le matériel et du coup de permettre à un jeune de pouvoir vinifier, parce qu'il faut aussi savoir que les cuves sont chères, hein. Quoi qu'il arrive, quelqu'un qui veut faire sa petite vigne, s'il veut s'équiper correctement, ça représente quand même un certain investissement. Donc je crois qu'aujourd'hui, avec ce système, on a pu conserver, enfin tenir hors friche 1,5 hectare de vignes.
Tout cela, ce partage de savoir, cet accompagnement, ça se fait de façon informelle, ou vous demandez à ces jeunes d'être adhérents à l'association, par exemple?
Oui, bien sûr, les jeunes sont adhérents à l'association. Après, les conventions que l'on crée, c'est une convention qui intègre donc l'association, le jeune exploitant, enfin jeune ou moins jeune d'ailleurs, et le propriétaire. Voilà, donc le propriétaire vient nous voir en nous disant bon, j'ai une vigne là que je ne veux plus faire ou je peux plus faire. Et si nous, on a parfois des jeunes qui viennent nous voir, qui nous disent est-ce que vous savez s'il y a une vigne dont je serais susceptible de m'occuper. Alors voilà, on a pu, je crois aujourd'hui qu'on a une dizaine de conventions. Derrière, après, bon, il y a vraiment un gros travail au moment en suivi de vendange. Nous, on peut intervenir également sur les vignes, hein, parce que il y a aussi le travail dans la vigne, donc c'est plus rare. Mais c'est vrai qu'il y a des adhérents, des exploitants, donc entre guillemets, qui nous sollicitent pour venir, bah, soit les guider sur leur vigne. Bon, cette année, par exemple, on a eu. Il faut savoir que les vignes en place sont des vignes de cépage hybride qui ont été mises en place après guerre et qui, bon, font des vins assez rustiques, c'est vrai, mais qui par contre sont très résistants aux maladies. Donc moi, par exemple, ça faisait quelques années qu'on n'avait pas traité la vigne de ma grand-mère. Cette année, il aurait fallu traiter parce qu'on a eu ce qu'on appelle un rougeau parasitaire, ou on appelle ça également un Brenner, qui a été très violent parce qu'on a eu quand même une forte quantité de pluie au mois de juillet. Et du coup, ça a précipité un peu cette maladie. Et on a été surpris, à vrai dire. Donc du coup, on arrive parfois à des maturités difficiles quand on a ce genre d'attaque.
Ça m'amène à poser la question, justement, cette saison, cette récolte, est-ce que vous avez été satisfait? Vous faites un bilan positif?
Alors, le bilan positif, alors, il va pas être sur la quantité, il va pas être sur les maturités, parce que finalement, elles sont pas énormes. On a eu mieux que ça. Par contre, bon, après, c'est assez technique. C'est vrai que ce qui est surprenant, c'est qu'en termes d'acidité, les jus étaient tous beaucoup plus bas que d'habitude. Voilà, donc ça, c'est très bien. Mais c'est vrai que par contre, on a rentré, pour la plupart, les vignes ont produit de moins 25, moins 30, moins 35% par rapport à ce qui était fait l'année passée.
Et cette baisse d'acidité, ça va avoir un impact positif sur le résultat de la vinification?
Oui, puisque bon, les jus de raisin, quand ils rentrent, il faut savoir qu'une des transformations du jus de raisin, bon, bah, c'est la transformation des sucres en alcool, mais derrière il y a aussi tout l'affinage, et l'affinage, la perte de l'acidité des vins, ça fait partie de l'affinage. Et là, en l'occurrence, si déjà on part de plus bas, on a des chances d'arriver à des vins plus fins plus rapidement.
Est-ce que vous pourriez donner des exemples de suivi de vendanges ou d'entretien de vignes?
Alors, d'entretien de vigne, oui, moi j'ai été sur l'association, après avoir investi donc dans le matériel de vinification, a investi cette année dans un tracteur. On a acheté un tracteur avec deux outils. On a acheté un broyeur à marteau et une griffe Actisol. Donc c'est vrai que là, des adhérents nous ont sollicité pour intervenir sur leur vigne. Alors du coup, on a prévu avec l'association d'ailleurs de faire des prestations. Donc pas seulement pour les adhérents, on aura plusieurs tarifs. Une intervention, un griffage d'une vigne, ce sera, je sais pas exactement, faut se rapprocher de la boutique pour le savoir, mais à partir de là, on fait du désherbage, donc ça c'est le principe du désherbage, hein, mécanique. Et puis là, quand on a vu arriver la maladie, je suis allé aider un ami à traiter sur une parcelle, parce que j'avais bien peur qu'il perde toutes ses feuilles.
Sur la vinification, comment ça se passe? Que faites-vous? Quelles sont les différentes étapes? Comment ça se passe? Les gens viennent apporter eux-mêmes leur récolte?
La vendange, elle va se dérouler sur un mois, puisque les gens vendangent quand ils peuvent, souvent. Le mieux, bien sûr, c'est d'attendre que ce soit mûr. Il y a des moments, à deux semaines près, les gens vendangent un peu tôt. Et du coup, on attaque à rentrer du raisin. Je sais pas, cette année, on a dû attaquer début octobre, et puis on a fini le 16 octobre. Donc oui, ça s'étale sur 2-3 semaines. Et puis il y a ceux qui vendangent de leur côté. Moi, je suis toujours présent au local, donc on se donne rendez-vous et puis j'accueille la vendange avec les gens. On est après sinon 2-3 à se regrouper et à faire une vendange globale où on fait une journée plus festive, quoi.
Alors une fois que le vin, le raisin en cuve est devenu vin, que la vinification est terminée, qu'est-ce qu'il devient?
On le laisse, mettons, 2-6 mois dans les cuves inox. On essaie de chauffer la cave. D'ailleurs, on a isolé cette année. On essaie de chauffer un petit peu pour que toutes les premières transformations puissent se faire correctement. Et notamment, bon, déjà, la fermentation alcoolique pour qu'elle arrive au bout. Et puis, derrière, d'autres fermentations. Mais bon, c'est un peu technique. Ensuite, ce vin va aller en tonneau. Hein, on a un chai derrière. Dans le chai, on va donc entonner. Et là, on va le laisser 1 an, 2 ans, jusqu'à ce qu'il puisse s'affiner. Puis quand le propriétaire décide, quand il a besoin de vin, on met en place une petite mise en bouteille. Bon, il faut savoir que les quantités gérées, c'est quand même limité, mais donc on essaie de faire un suivi jusqu'à la mise en bouteille.
Pour chaque propriétaire, il y a un fût, il y a une cuve.
Voilà, tout à fait. C'est, on essaie de faire en sorte que chacun ait sa petite cuve et son fût. Les vins, quand ils sont un peu trop acides, ben on les laisse un peu plus longtemps en bois. Donc moi, il m'arrive de faire des mises en bouteille 3 ans après la vendange. Et puis bon, le vin comme ça s'éclaircit naturellement en tonneau. Et puis on arrive à des vins totalement finis au bout de quelques années. Voilà.
La mise en bouteille, en général, c'est vous qui la faites en prestation pour le propriétaire ou il vient lui-même mettre en bouteille?
Moi, je supervise, c'est-à-dire qu'on met en place une tireuse qu'on a, ce qui fait partie également des investissements qu'on a fait, et je supervise donc, enfin, j'aide à la mise en bouteille, mais bien sûr, le propriétaire est là.
Comment vous êtes perçu dans ce travail de restauration, de conservation des vignes?
C'est vrai que pour beaucoup, ça peut paraître un projet complètement fou, mais moi, c'est un projet qui me trotte dans la tête depuis des années. Ce qui est fou, c'est d'avoir tenu aussi longtemps. Aujourd'hui, bon, bah, comme je vous dis, j'ai peut-être des bonnes nouvelles, donc je commence à esquisser un sourire. Mais j'ai rencontré beaucoup de scepticisme, beaucoup, bah, j'irais pas dire de l'hostilité, mais ça a pu arriver. Mais voilà, donc on est quelques-uns à y croire fortement. Moi, je suis persuadé qu'on peut faire de très bons vins, qu'on a vraiment un terroir. Et qu'on peut arriver à des très bonnes maturités. Bien sûr, il faut savoir qu'il y a des cépages qui sont plus précoces que d'autres, donc il faut pas se tromper sur le choix des cépages. Mais pour avoir eu déjà quelques expériences sur des cépages différents d'hybrides, je suis complètement persuadé de pouvoir avoir des très bons résultats.
Samuel Deluce, merci pour votre persévérance et puis cette présentation de votre travail à l'association Vignes et Vignerons du Trièves. Bonne suite et donc bonne chance pour ces perspectives qui s'ouvrent depuis peu pour votre, j'espère bientôt, une installation à votre compte pour vos vignes.